إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب on va commencer aujourd'hui c'est le cours numéro 12 dans l'explication de يعني le livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وعليكم السلام ورحمة الله avec l'explication, yani c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc au dernier cours, on l'a laissé et Cheikh al-Fawzan il expliquait les différentes catégories de tashabbuh. Et il mentionnait le verdict de chaque catégorie. Donc on a parlé de ça au dernier cours. Yani il expliquait qu'il y a des catégories de tashabbuh qui sont, il y a des tashabbuh bil kuffar qui sont kufr, et des formes de tashabbuh, de ressemblance ou d'imitation des kuffar. Il y en a des catégories qui sont kufr, c'est-à-dire si tu les imites dans qu'est-ce qui est, dans qu'est-ce qui est kufr. Comme il a mentionné le cheikh, de les imiter dans leur croyance, dans leur exagération au sujet des hommes pieux et des morts, de les adorer ou de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, ça c'est kufr, hein, ça c'est un exemple, et ça, ça fait sortir de l'islam. Une autre catégorie qu'il a mentionnée, c'est qu'est-ce qui est pas kufr en lui-même, mais qu'est-ce qui peut amener au kufr ou au shirk, c'est-à-dire qu'il y a un moyen vers le kufr ou le shirk, si tu les imites là-dedans, donc ça c'est une forme de kufr ou de shirk asrar. Et ensuite, il a mentionné la catégorie de tashabbuh, qui est fisq, c'est-à-dire tu les imites dans qu'est-ce qui fait partie des kaba'ir. Donc si tu les imites là-dedans, donc ça, ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie du fisq. Et il a mentionné une autre catégorie qui est dans le fait de les imiter dans qu'est-ce qui est ma'asiyah, comme le fait de raser la barbe et d'imiter les kuffars dans leur façon de s'habiller et dans leur façon de parler. Ensuite, il a parlé de tashabbuh bil kuffar dans qu'est-ce qui est khata, yani qu'est-ce qui est fait involontairement, la ressemblance involontaire, dans qu'est-ce que certains musulmans peuvent parfois s'imaginer ou penser que c'est des choses qui sont permises. Et la dernière catégorie, c'était tashabbuh dans leurs actions, et dans, non pas dans leurs actions, mais dans leur apparence. Et il a donné l'exemple de, par exemple, de ne pas teindre, de ne pas mettre de la teinture dans la barbe, et de, c'est-à-dire lorsque dans la barbe et les cheveux lorsqu'ils sont devenus blancs, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de les teindre. Lorsque les cheveux deviennent blancs, la sunna c'est de les teindre, mais pas avec du noir, de les teindre avec une autre couleur. Donc le fait de ne pas les teindre, c'est quelque chose qui est makruh, c'est quelque chose qui est pas, qui est détestable. Maintenant, on passe à une autre partie, donc on va lire la suite. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: "Wa hadha al-inhiraf amrun tataqadahu at-tiba' wa yuzayyinuhu ash-shaytan. Falidhalika umira al-'abd bidawam du'a' Allah subhanahu wa ta'ala bil hidayati ila al-istiqamati allati لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا." Donc le cheikh, il explique, il dit que cette déviation, c'est-à-dire dans le fait de ressembler ou d'essayer de ressembler aux juifs et aux chrétiens ou aux autres koufars, eh bien, il dit que c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine et c'est quelque chose que le shaitan essaie parfois d'embellir. Et c'est pour cette raison-là que le serviteur d'Allah doit constamment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander la guidance vers la fermeté et la droiture sur le chemin qui ne penche ni vers le judaïsme ni vers le christianisme à la base. C'est-à-dire, on a expliqué l'exemple des juifs, c'est-à-dire ceux qui ont de la science mais qui ne l'appliquent pas, et l'exemple des chrétiens, ceux qui appliquent ou pratiquent la religion sans science. Donc, ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « هذا بيان لسبب التشبه بالكفار وهو أن الانحراف عن المنهج وعن الطريق القويم تميل إليه اتباع البشرية فالنفس تحب الشهوات والملذات واتباع الهوى وهذا يزينه الشيطان للإنسان بوسوسته وخيله ورجله ويحاول أن يحرفه عن الطريق وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالفطرة تفسد والطبيعة تنحرف والنفس تنازع الإنسان وتأمره بالسوء كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فلو ترك الإنسان وشهوته وترك وطبيعته المنحرفة لمال إلى ما يغضب ربه لأجل ذلك أمر الله عباده بدعائه بالهداية والاستقامة. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que la cause de cette ressemblance au kuffar, c'est en réalité c'est une déviation de la bonne voie et du chemin droit vers laquelle penche la nature humaine. Parce que la nature de l'âme, c'est-à-dire l'âme humaine, elle aime les désirs et les passions. Elle aime les plaisirs et les tentations. Et elle aime suivre la passion. Et ça, c'est quelque chose que le shaitan embellit à l'homme et lui suggère par ses armées, avec ses armées qu'il a. Parce que le shaitan, il a avec lui des armées qui travaillent pour lui, qui essaie d'appeler les gens et de les amener encore plus dans la désobéissance et dans le péché. Et qui essaie de le faire dévier du droit chemin. Comme c'est mentionné dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que tout enfant, lorsqu'il naît, il naît sur la nature propre, la nature pure, la fitra, qui est l'islam. Mais par la suite, ce sont soit ses parents qui le font devenir juif, ou soit chrétien, ou soit majus. Mais à la base, donc, il est sur la fitra, c'est-à-dire le tawhid et l'islam. Donc c'est la preuve que la fitra, la nature propre de l'homme, elle peut être corrompue. Elle peut être déviée ou détournée. De sa droiture ou de son chemin droit. Et l'âme de l'homme parfois dispute le fait de suivre le droit chemin et ordonne à la personne donc de suivre le mal et de faire qu'est-ce qui est mauvais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans sourate Yusuf, le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que l'âme elle est ordonnatrice, où elle commande le mal, excepté pour celui pour qui Allah a fait miséricorde. Donc si l'être humain était laissé à lui-même, et si l'être humain, par exemple, était laissé avec ses désirs et qu'on laissait l'être humain avec ses passions déviées, eh bien, il pencherait vers ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de toujours l'invoquer et de toujours lui demander la guidance et la droiture. Le cheikh dit ensuite, قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وهذا في كل ركعة من صلاتنا ندعو الله بهذا الدعاء اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم وهو الطريق المعتدل المخالف لطريق المغضوب عليهم والمخالف لطريق الضالين نسأل الله أن يؤمننا من هذا الخطر لأن خطر التشبه باليهود والنصارى مستحفل في كل زمان ومكان لا سيما وأنهم يدعون أنهم أهل علم وخبرة وأسبقية والغير من المسلمين ينخدع بهم لا سيما وهم اليوم يصفون أنفسهم بأنهم الدول الرائدة في حمل الديمقراطية والإصلاح والحرية في حين أنهم يسخرون العالم لمصالحهم بكل طريقة ولو كانت سببا في الإفساد والإهلاك كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, guide-nous sur le droit, il dit, il nous a enseigné de l'invoquer en disant, guide-nous sur le droit chemin. Et ça on le dit dans chaque rak'ah de notre prière. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation, guide-nous, c'est-à-dire, yani, indique-nous, oriente-nous, raffermis-nous sur ton droit chemin. C'est-à-dire le chemin qui est équilibré, qui est droit, hein, contrairement au chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ceux qui ont yani, été égarés du droit chemin. Donc Allah nous incite donc à lui demander et à l'invoquer de nous écarter de ces deux voies d'égarement-là. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sécuriser hein, et de nous protéger de ce genre de danger. Parce que le danger de l'imitation des juifs et des chrétiens, c'est quelque chose à toute époque. Et en tout endroit sur terre, c'est quelque chose qui est hein, nécessaire. Et le musulman, il doit le faire. Et en particulier, lorsqu'ils sont en train aujourd'hui, par exemple, de dire qu'ils sont les gens qui possèdent la science aujourd'hui, qu'ils possèdent l'expérience, la connaissance, qu'ils sont au-devant de tous les autres peuples. Et les petits musulmans, parfois les petits d'entre les musulmans, ou ceux d'entre eux qui sont facilement impressionné ou facilement influencé, eh bien, il se laisse facilement tromper par justement ces prétentions-là. Il se laisse facilement tromper par les juifs et par les chrétiens. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, ils se décrivent comme étant les pays qui dirigent le monde et qui portent avec eux les idées de démocratie, de réforme et de liberté. Et alors qu'en réalité, on voit qu'ils sont en train d'assujettir le monde entier pour leurs propres intérêts, hein, pour leurs propres intérêts, par tous les moyens qu'ils trouvent, même si ça amène comme conséquence ou même si ça cause de la corruption, du désordre et de la destruction et de la perdition sur la terre. Donc les conséquences, c'est pas important pour eux. L'important, c'est juste d'arriver à obtenir ce qu'ils veulent et d'avoir satisfait leurs intérêts au nom de la liberté, au nom de la démocratie et peu importe quelle autre idéologie qu'ils peuvent mettre de l'avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme le cheikh il mentionne, ce qui signifie, lorsque tu leur dis, ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs. Ils disent, nous ne sommes que des réformateurs, on veut juste ramener le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ce sont eux les corrupteurs, ce sont eux qui font le désordre, mais ils ne le réalisent pas. Et lorsque tu leur dis, croyez comme les gens ont cru, c'est-à-dire comme les croyants, les musulmans ont cru, ils disent, allons-nous croire comme les faibles d'esprit ont cru? Parce que pour eux, les croyants, les musulmans sont des faibles d'esprit. Hein? Ils les appellent toutes sortes de noms. Les intégristes, les rétrogrades, les barbus, les barbares, les fous. Hein? Donc ils les appellent par toutes sortes de noms pour se moquer des croyants. Et ils disent, allons-nous croire comme ont cru les faibles d'esprit? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant, certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Hein? Donc le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite dans le passage numéro 44, وَأَنَا أُشِيرُ إِلَى بَعْضِ أُمُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ الَّتِي ابْتُلِيَتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَتَجَنَّبَ الْمُسْلِمَ الْحَنِيفِ الْإِنْحِرَافَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ الضَّالِّينَ قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. Donc le cheikh il dit, j'indique, je vais indiquer maintenant certaines choses qui font partie des exemples de ce que suivent les juifs et les chrétiens, les gens du livre, et les non-arabes, yani parmi les autres peuples, yani, qui ont été parlés, yani des choses qu'ils suivent, par lesquelles cette umma a été éprouvée. Pour que le musulman qui est hanif, c'est-à-dire qui cherche à se tourner uniquement vers Allah et vers le tawhid, et qui s'écarte de tout ce qui est associé avec Allah, parmi les idoles et autres choses qui sont adorées, donc que celui-là parmi les musulmans qui est hanif, qui cherche le droit chemin, s'écarte de ce qui a fait dévier les musulmans de cette umma vers le chemin des gens qui ont encouru la colère d'Allah, les juifs, et le chemin des égarés, les chrétiens. Et le cheikh il mentionne le verset 109 dans Sourate Al-Baqarah, le verset 109 dans Sourate Al-Baqarah, qui mentionne en fait l'envie et la jalousie des juifs envers les croyants et envers les gens qui suivent l'islam. Et donc il mentionne le verset 109 qui dit ce qui signifie nombre des gens du livre, c'est-à-dire plusieurs d'entre les gens du livre aimeraient par jalousie de leur part. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Donc ici, حَسَدًا, c'est-à-dire par jalousie. Donc nombre des gens du livre aimeraient par jalousie, حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ, de leur part, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants. لَوْ يَرْدُونَكُمْ كُفَّارًا. Donc, c'est-à-dire, ils aimeraient pouvoir vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez cru. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux de la vérité que vous suivez. Et après que la vérité s'est manifestée à eux. Ils ont vu la vérité. Et ça, ils sont tellement jaloux qu'ils souhaiteraient nous faire revenir à la mécréance pour qu'on ne l'accepte pas. Il dit, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Le cheikh, il dit ensuite, après avoir cité ce verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les juifs pour la jalousie qu'ils ont envers les croyants, du fait qu'ils suivent la guidance et à cause de la science qu'ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique ensuite Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce passage. Passage 44, il dit « بعد أن ذكر الشيخ إجمالا طريق المغضوب عليهم والضالين شرع في البيان والتفصيل ليتجنب المسلم طريقهم ويلزم الصراط المستقيم وأما قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى لأن الله أنزل عليهم رسلهم أنزل على رسلهم الكتب التوراة والإنجيل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فهم يتعنتون ويسعون جاهدين ليصرفوا المسلمين عن دينهم إلى دين الكفر وهم يعلمون أن دين الإسلام هو الحق ولكن الدافع الذي حملهم على حسد المسلمين هو الجحود قال تعالى حسدا من عند أنفسهم والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود فهم يتمنون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين وأن يرجعوا كفارا فتزول عنهم هذه النعمة. On va traduire juste cette partie-là, puis on va continuer l'explication en arabe par la suite. Cheikh, il dit, après donc, le Cheikh, après avoir expliqué de façon générale et globale la voix des gens qui ont encouru la colère d'Allah, qui ont la colère d'Allah sur eux, et la voix des égarés, le Cheikh maintenant va commencer à expliquer en détail les caractéristiques, il y en a de ces gens-là, les caractéristiques de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et de ceux qui se sont égarés, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, pour que le musulman puisse s'écarter de leur voie et pour qu'il puisse rester ferme et accroché fermement au droit chemin. En ce qui concerne la suite de ce que, qu'est-ce que Allah a dit dans le verset que le Cheikh a cité, il dit que beaucoup ou nombreux d'entre les gens du livre, qu'est-ce qu'on veut dire ici par les gens du livre? Le Cheikh dit ce sont les juifs et les chrétiens parce que Allah leur a envoyé à leurs messagers des livres, la Torah et l'Injil. Hein, on a expliqué ça. On a expliqué que eux, ils ont reçu, les juifs et les chrétiens ont reçu ces livres-là. Mais que les livres qu'ils ont actuellement, la Bible, c'est pas la Torah et c'est pas l'Injil, puisque ils l'ont changé, ils l'ont falsifié, ils ont enlevé et rajouté dedans. Et donc, c'est pas le livre dans son état d'origine qu'ils ont actuellement, mais c'est des livres qui ont été changés et falsifiés. Donc, la Bible, c'est pas équivalent à Torah ou l'Injil. C'est important de comprendre. Nous, on est obligé et on est ordonné par Allah de croire en tous les livres, y compris la Torah et l'Injil. Mais Torah ou l'Injil, c'est pas les livres que les chrétiens et les juifs possèdent aujourd'hui en leur main. Ces livres-là ne sont pas les vrais livres que Allah a révélés. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Et donc ça prouve que même si on avait la Bible authentique, c'est-à-dire qu'on avait Torah ou l'Injil authentique aujourd'hui avec nous, eh bien on n'aurait pas plus l'obligation ou le devoir de les prendre comme référence pour croire ou pour pratiquer la religion, puisqu'on a le Coran qui est abrogeant et qui vient abroger tout ce qui était auparavant. Ensuite le Cheikh il explique la suite du verset « Law yardunakum » Plusieurs d'entre les gens du livre souhaiteraient vous faire revenir à la mécréance, vous faire redevenir mécréant après que vous ayez eu la foi. Hein? Donc ce sont des gens qui, par arrogance et obstination dans l'égarement, font tous les efforts qu'ils peuvent pour détourner les musulmans de leur religion vers la religion de la mécréance. Et yani, ils savent que la religion de l'islam c'est la vérité, mais ce qui les pousse à agir de cette manière, c'est en fait le fait que, yani, ce qui les pousse à être jaloux des musulmans, c'est en fait le fait qu'ils ont renié et refusé d'accepter la vérité par obstination. Le cheikh il dit, قال سبحانه حسدا من عند انفسهم, c'est-à-dire il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit par jalousie, par envie, hein, de venant de leur part. Et il explique que en arabe al-hasad ça veut dire de souhaiter que la grâce que quelqu'un a obtenue lui soit enlevée. Quand tu es jaloux de quelqu'un, ça veut dire que tu souhaites que la grâce que Allah lui a donnée, elle lui soit enlevée. Et qu'il n'ait plus cette grâce-là. Et donc, eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, souhaiteraient que la grâce de l'islam soit enlevée aux musulmans. Et qu'ils redeviennent mécréants. Hein? Donc, qu'il n'ait plus la grâce de l'islam avec eux. من بعد ما تبين لهم الحق أي من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا لما كان من غيرهم لما كان من غيرهم وانظر ماذا يفعل الحسد لقد جعل اليهود يكفرون بعد أن جاءهم الحق وعرفوه وهذا الذي حصل لإبليس لما حسد آدم عليه السلام. Donc, le cheikh il dit après yani, la suite du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit min ba'di ma tabayyana lahum al-haq, après que la vérité leur ait été clarifiée. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire après qu'ils aient compris et qu'ils aient vu clairement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah réellement. Parce qu'ils l'ont trouvé mentionné dans leur livre, écrit dans leur livre, la Torah et dans l'Injil, la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est présente dans leur livre. Mais ils ont renié, ils ont rejeté la foi en sa prophétie et en son message par jalousie et par rivalité et par yani, par transgression yani lima kana min ghayrihim, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas yani de Bani Israël, parce qu'il faisait pas partie des fils d'Israël, donc parce qu'il n'était pas descendant yani de Bani Israël, eh bien, à cause de ça, ils ont refusé de croire en lui. Et à cause de ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas des Juifs. Il fait partie des Arabes. Donc, par fierté, par arrogance, par jalousie, ils ont refusé d'accepter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'est pas de leur peuple, hein, Allah al-Musta'an, alors qu'ils reconnaissent que son message est vrai et que ce qu'il a enseigné yani, correspond à la vérité de ce que Allah a révélé aux autres messagers qui sont venus avant lui, hein, donc ils refusent de l'accepter à cause, yani, parce qu'il n'est pas un des leurs. Donc regardez, Cheikh dit, regardez jusqu'où peut amener. Et qu'est-ce que peut faire avec quelqu'un lorsque la jalousie entre dans son cœur? Yani, donc le cheikh il dit لقد جعل اليهود يكفرون بعد جاءهم الحق وعرفوه. Donc la jalousie a fait que les juifs ont rejeté la vérité après qu'elle leur soit venue et après qu'ils l'aient reconnue comme étant la vérité. Et donc ça, c'est la même chose que ce qui était arrivé à Iblis, le diable, auparavant, yani, lorsqu'il était jaloux de Adam. Lorsqu'il a été jaloux de Adam, alayhi salam. Ensuite, le cheikh il explique, il dit قوله ود كثير أي أنه ليس كل أهل الكتاب أنه ليس كل أهل الكتاب على هذا المستوى في العداء والحسد فإن فيهم أخيارا ومؤمنين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا بالحق فمنهم من مات على إيمانه قبل البعثة ومنهم من أدرك البعثة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمع بين الهدايتين ولذلك يؤتيه الله أجره مرتين وهؤلاء قلة من أهل الكتاب قال تعالى فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que plusieurs ou nombreux d'entre les gens du livre ont voulu vous rendre mécréants après que jusqu'à la fin du verset, quand il dit nombreux d'entre eux, كثير ود كثير كثير ça veut dire nombreux, il y en a beaucoup. Donc quand il dit ça, le cheikh il explique, il dit ça veut dire que c'est pas tous les gens du livre qui sont au même degré et qui ont toute cette animosité et cette jalousie envers les croyants, parce que parmi eux il y en a qui sont bons, il y en a qui sont bons, qui ont cru au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accepté la vérité, qui ont accepté et déclaré la vérité une fois qu'elle leur est parvenue. Et il y en a d'autres aussi parmi eux qui sont morts sur leur foi, c'est-à-dire sur le tawhid et sur la foi en les messagers avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient aussi, dans ce cas-là, ils étaient des musulmans. Il y en a d'autres qui ont vécu jusqu'à l'époque de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est devenu prophète, ils ont vécu et ils ont rencontré ou connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont su sa venue, ils ont cru en son message, et donc ils ont réuni entre les deux guidances, la guidance de leur foi précédente lorsqu'ils croyaient en leurs prophètes respectifs, ils ont cru en Isa, ils ont cru en Moussa, et ainsi de suite, et en plus ils ont cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur récompense deux fois. Ils vont être récompensés deux fois au lieu d'une, puisqu'ils ont cru en plus qu'un prophète, ils ont cru en deux prophètes. Et ceux-là sont une minorité et un petit nombre parmi les gens du livre. Donc ça c'est pour dire que il faut pas comprendre ou faut pas croire comme certains parmi les égarés qui sont en train parfois de dire que les juifs et les chrétiens sont pas des koufars ou qu'ils font partie des croyants, et puis ils vont mentionner ce genre de verset que le cheikh a mentionné qu'on va citer, qui pensent que ça veut dire que les juifs et les chrétiens sont parmi eux, il y en a des croyants aujourd'hui. Et c'est pas ça que ça veut dire. On va l'expliquer. Donc, les versets qu'il cite, c'est les versets comme les versets 199 dans Sourate Al-Imran. Donc, dans le verset 199 dans Sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ceux qui ont et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense auprès de leur Seigneur. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc, c'est pour dire que parmi eux, parmi les gens du livre, eh bien, il y en a qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en ce qui a été fait, en ce qu'on a fait descendre vers vous, c'est-à-dire les musulmans, et en ce qui a été descendu, c'est-à-dire en ce qui a été révélé vers eux. C'est-à-dire, ils croient en qu'est-ce qu'ils ont reçu de la part de leur messager, et ils croient en, ils ont cru par la suite en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru en le Coran. Donc, ceux-là sont ceux qui sont bons. Ça, c'est ceux qui ont, cru en leur religion avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui, lorsqu'ils ont entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont accepté sa da'wah et ils ont cru en lui aussi. Donc, ceux-là sont ceux dont on parle dans ce verset-là, et non pas ceux qui, aujourd'hui, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir connu l'islam, continuent à refuser de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et continuent à rejeter le Coran. Ceux-là sont des kuffars. Peu importe, même si on les appelle des gens du livre, ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants. Et l'autre verset que le cheikh a cité, c'est les versets 113 à 115 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie mais ils ne sont pas tous pareils. En parlant des, il y en a des juifs et des chrétiens. Ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Donc, ça c'est pour dire que il y en a parmi eux, il y en a qui sont bons, hein, et qu'il y en a qui croient en Allah, et qui sont sérieux et qui sont sincères. Mais, comme on l'a expliqué, ça c'est, soit qu'ils ont cru en leur messager avant l'islam et qu'ils sont morts sur le vrai message de leur prophète avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là ils étaient musulmans, ou bien ils ont cru en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa venue, après avoir été juifs ou chrétiens, ils sont devenus musulmans, donc dans ce cas-là ils sont parmi les gens de bien aussi. Et donc on ne parle pas du tout de ceux qui ont aujourd'hui par exemple entendu parler de l'islam et connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, puis qu'ils ont refusé d'y croire ou qu'ils ont rejeté la vérité et qu'ils sont restés sur leur fausse religion, de penser ou de s'imaginer que ceux-là sont encore des croyants, ça c'est de l'égarement. Donc le cheikh il dit ensuite: وفي ذلك بيان للعلماء من هذه الأمة أن لا يعمموا الأحكام على الناس ويسحبوها على الجميع بل إن من القوم من يعرف لأهل الفضل فضلهم ولا ينكرونه وهذا من الإنصاف والعدل. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. Donc le cheikh il dit, il y a dans ça une indication et une clarification pour les savants de cette umma, qu'ils ne doivent pas généraliser les règles sur tout le monde et juger les gens de façon générale, hein, et appliquer un verdict sur tout le monde, parce que il y a parmi les gens ceux qui ont justement du mérite, et il faut reconnaître le mérite à celui qui possède ce mérite, celui qui a du bien, il faut lui reconnaître le bien qu'il a et on ne doit pas le nier. Et ça c'est dans le sens d'être juste, hein, et d'être honnête, hein, d'être juste et d'être honnête, et d'être, c'est-à-dire d'être intègre, de faire preuve d'intégrité et de justice. Le Cheikh, il mentionne le verset 8 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la haine qu'on a envers un peuple ne nous pousse pas à ne pas être juste. Que la haine qu'on a envers un peuple ne nous pousse pas à ne pas être juste. Au contraire, soyez juste. Soyez juste. C'est plus près de la piété. Pratiquez la justice et l'équité. Ça, c'est plus près de la piété. Et donc, ça, c'est pour dire que même si c'est envers notre ennemi et que c'est envers des koufars et qu'on les déteste, eh bien, on doit quand même faire preuve de justice envers eux. Le verset 45, la partie ou le passage numéro 45, le Cheikh, il dit: وقد يكون التشبه بالكفار بالاتصاف. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, parce que ça c'est, je me suis trompé ici. Donc le Cheikh, il dit, وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، فهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. Donc le Cheikh, il dit, il est possible que parmi les gens qui ont qui s'apparentent à la science et d'autres également, que c'est possible que parmi eux certains ont été éprouvés par une forme quelconque de jalousie pour celui à qui Allah a donné la guidance vers une science quelconque qui est bénéfique ou une bonne œuvre, une œuvre, parmi les œuvres de piété et les bonnes œuvres. Et ça, le fait d'avoir cette jalousie-là pour la personne qui fait du bien ou qui a une science bénéfique, cette jalousie-là, c'est quelque chose qui est blâmable de façon générale. C'est quelque chose qui est blâmable de façon générale et de façon absolue. Et en effet, dans cet exemple-là qu'on est en train de mentionner actuellement, ça, c'est un des comportements de ceux qui ont encouru la colère d'Allah sur eux, c'est-à-dire les Juifs. Ça fait partie de leurs caractéristiques. Ils envient les gens qui ont du bien. Ils envient les gens qui reçoivent du bien ou qui font du bien. Donc, le Cheikh, il dit: التشبه بهم في صفاتهم الذميمة. C'est-à-dire de ressembler aux kuffar dans leurs caractéristiques blâmables et dans leurs attributs qui sont blâmables. Donc le Cheikh, il va donner des exemples de leurs caractéristiques dans le passage 45. On a donc là, il fait c'est comme pour nous préparer à qu'est-ce qu'il va citer comme exemple. Donc il a mentionné la jalousie et l'envie de qu'est-ce qui est bien. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous explique premièrement ce premier exemple-là. Il dit: قد يكون التشبه باليهود بالاتصاف بالحسد، فإنه قد يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله العلم والعمل، فيشبه فعله هذا فعل اليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من فضله. قوله: وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم، أي أن الحسد هو الذي يحمل بعض الناس على تنقص أهل الحق والفضل والحق من قدرهم، لا لشيء إلا الحسد الذي ملأ القلوب. قال الشاعر: حسد الفتى لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسنى قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. Donc, il explique, le cheikh, il dit que qu'est-ce qu'on a voulu dire ici, c'est que c'est possible que certains musulmans ressemblent ou imitent les juifs dans la caractéristique d'avoir de l'envie ou de la jalousie. Et c'est possible donc que cette caractéristique-là soit présente dans cette umma, c'est-à-dire dans la umma de l'islam, parmi ceux qui ressemblent ou imitent les juifs et les chrétiens. Donc, il est jaloux pour les gens qui ont du mérite, à cause de la science que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à la personne, ou des bonnes œuvres que la personne fait. La personne, elle est jalouse de ça. Elle envie cette personne-là parce qu'elle fait du bien ou parce qu'elle a de la science. Donc, en ayant cette envie ou cette jalousie-là, elle ressemble en fait à... Elle imite les actions et elle fait les actions des juifs et des chrétiens qui, eux, ont de la jalousie envers les musulmans pour ce que Allah leur a donné comme mérite. Et ça, c'est très, très dangereux et très grave. وَهُوَ فِي هَذَا الْمُوضِعِ مِنْ أَخْلَاقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Donc, dans cette caractéristique-là, ça fait partie, dans le contexte qu'on est en train de mentionner, ça fait partie des caractéristiques de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, et on sait que ce sont les juifs. Et donc il dit que, c'est-à-dire que cette jalousie ou cette envie, c'est ça qui a poussé certains d'entre les hommes à diminuer et à rabaisser, à chercher à rabaisser les gens de la vérité et les gens du mérite, et à les diminuer de leur degré, à leur enlever de leur degré ou à les rabaisser de leur degré. Donc, ça c'est une caractéristique de ces gens-là, des juifs. Ça les amène à essayer de rabaisser ou diminuer les hommes de science, ou les gens qui ont de la science, ou les gens qui font du bien, et essayer de les descendre, de les rabaisser, pour rien d'autre qu'à cause de la jalousie qui a rempli leur cœur. Et là, le cheikh cite le passage d'un poète, qu'est-ce qu'il a mentionné comme proverbe ou comme parabole à ce sujet-là. حسد الفتى لم ينالوا سعيه, c'est-à-dire ils ont été jaloux de la personne, d'un jeune, yani parce qu'ils n'ont pas été capables d'atteindre le degré d'effort qu'il a fait, ils n'ont pas été capables de faire comme lui, donc ils ont été jaloux de lui. فإن الناس أعداء له وخصوم, c'est-à-dire les gens sont devenus des ennemis, lui sont devenus des ennemis, sont devenus ennemis de lui, et opposent, ils sont devenus son opposant à cause de leur jalousie. كضرائر الأسنى قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. Si je comprends qu'est-ce qu'il dit ici, Allahu a'lam, parce que des fois la poésie c'est un petit peu symbolique, mais il dit c'est comme les gens qui sont beaux, des gens qui sont beaux mais qui sont aveugles, tu leur dis à leur visage qu'ils sont laids par jalousie de leur beauté. Mais c'est grave, si quelqu'un il voit pas, et qu'il est beau, tu lui dis qu'il est laid parce que tu es jaloux de sa beauté. Ça, c'est l'attitude de certaines personnes parfois à cause de la jalousie. Ça les amène à agir de cette façon. Allah musta'an. Et à détester quelqu'un ou à être, à avoir de l'animosité ou de la haine envers lui par jalousie. C'est grave. Ça, c'est une caractéristique des juifs. Donc, le chef dit وَلِذَلِكَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُشْبِهُ الْيَهُودِ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ الذَّمِيمَةِ وَهِيَ حَسَدُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا عِنْدَهُمْ لِيَكُونَ مِثْلَهُمْ بَدَلَ أَنْ يَتَمَنَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به. Donc le cheikh il explique, il dit ça c'est pour cette raison que il y a dans cette umma des gens qui ont cette mauvaise caractéristique qui est en fait une imitation des juifs, hein? Et c'est-à-dire d'être jaloux des gens du bien et des gens de la de science à cause de ce que Allah leur a donné, t'es jaloux d'eux pour ça. Donc qu'est-ce qui était obligatoire à la place, qu'est-ce qui était obligatoire pour cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à la place au lieu d'être jaloux de la personne et d'envier la personne pour le bien que Allah lui a donné, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait plutôt essayer de faire les efforts pour obtenir ce que cette personne-là a reçu comme bien. Au lieu de souhaiter que cette grâce que Allah lui a donnée lui soit enlevée. Et le cheikh, il cite le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, mais selon Ibn Omar, qui dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jalousie, excepté en deux choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de jalousie qui est permise en islam, excepté pour deux choses. D'être jaloux de ce que Allah a donné à un homme comme argent, alors qu'il le donne dans le sentier d'Allah, et d'être jaloux d'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, et qu'il l'enseigne, cette science, et qu'il l'applique. Donc tu es jaloux de cette personne. Mais le cheikh il dit fal hasadu ala qismain hasanun hasadun fal hasadu ala qismain hasadun madhmumun wa huwa tamanni zawal an-ni'ma 'an al-mahsud wa hasadun mahmudun wa huwa al-ghibta bi ma'na an yatamanna an yahsul lahu mithla ma an yahsul lahu mithla ma حصل لأهل الفضل دون أن يتمنى زوال الفضل عنهم. Donc il dit que, donc d'après ce hadith qu'on vient de mentionner, qu'il n'y a pas de jalousie permise excepté dans ces deux choses-là, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qu'il dépense dans le sentier d'Allah, ou quelqu'un à qui Allah a donné de la science et qu'il l'enseigne et qu'il l'applique, ça c'est permis d'avoir de la jalousie pour ces personnes-là. Mais il dit, le cher, la jalousie est divisée en deux catégories. La première catégorie, c'est la jalousie qui est blâmable, c'est-à-dire que tu souhaites que la grâce que quelqu'un possède lui soit enlevée, ça c'est blâmable. Et la jalousie qui est louable, et ça c'est al-ribta, on l'appelle en arabe al-ribta, c'est-à-dire que tu souhaites obtenir la même chose que celui-là a obtenu de bien, sans souhaiter que ce bien-là lui soit enlevé. Tu souhaites obtenir la même chose que cette personne-là a obtenu de bien, soit la science bénéfique, et de souhaiter de l'enseigner et d'être capable toi aussi de l'appliquer et de l'enseigner, ou bien d'avoir de l'argent, de la richesse, et de pouvoir donner en sadaqa toi aussi, de faire l'aumône et la charité toi aussi si tu avais cet argent-là. Mais sans souhaiter que cette chose-là lui soit enlevée à lui, aussi, à lui, à la base. Donc, tu ne vas pas souhaiter qu'il devienne pauvre, par exemple. Ou tu ne vas pas souhaiter non plus qu'il ne donne pas fi sabilillah. Ou bien tu ne vas pas souhaiter que, par exemple, il va devenir jahil, il va être ignorant. Il ne va plus enseigner. Ou il ne va plus pratiquer la science qu'il a. Hein, des choses comme ça. Ça, c'est al-hasad al-mazmoum. C'est la jalousie qui est blâmable. Et ça, c'est interdit. Hein? C'est la caractéristique de Al-Yahoud. Al-Yahoud, ils n'aiment pas que des gens aient du bien ou soient bons. Et quand ils voient des mu'minines, des croyants, qui s'accrochent à la révélation d'Allah et à la religion d'Allah, ça crée en eux une envie et une jalousie, ça les dérange. Ils veulent que ce soit juste. Et même si eux, ils ne le pratiquent pas, hein, même si eux, ils ne pratiquent pas la vérité, mais ils ne veulent pas que personne d'autre la pratique non plus. Et quand ils voient d'autres personnes qui pratiquent la vérité et qui s'accrochent à la religion d'Allah, ça les dérange. Parce qu'ils savent, ça leur rappelle de qu'est-ce qu'ils ont négligé ou qu'est-ce qu'ils ont abandonné de la vérité. Et donc, ils veulent que les gens soient tous égarés comme eux. Ils ne veulent pas que personne n'accepte la vérité. Allahul Musta'an. Donc le Cheikh il explique ensuite. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il va mentionner plusieurs autres versets dans le Coran qui mentionnent d'autres caractéristiques des gens du livre également. Le premier exemple qu'il mentionne, le verset 36-37 dans Surat An-Nisa. Le Cheikh il dit: قال الله سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر فلذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية وقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآية وقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوا يعني سبحان الله. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, voici ce qu'il dit ici. Premièrement, il mentionne le verset 36 et 37 dans Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Qu'est-ce que Allah dit dans ces versets-là? Il dit ce qui signifie: Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Allah n'aime pas le présomptueux, l'arrogant. Ceux qui sont avares et qui ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce que Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Donc ça c'est la description, le cheikh il dit, c'est la description de l'avarice qui est en réalité l'avarice de la science et l'avarice de l'argent. Et il dit, dans le contexte ici, même si le contexte ici dans le verset, c'est dans le sens de la science, qu'ils sont avares de la science, ils ne veulent pas que les gens aient la science qu'eux ont obtenue de la révélation d'Allah et de la vérité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent la cacher. Hein? Ils veulent essayer de la cacher. Allahul Musta'an. Et donc c'est pour ça que vous voyez que jamais vous allez trouver des juifs qui font la da'wah à leur religion. Dans le sens que tu ne vas pas trouver un juif qui appelle d'autres personnes à devenir juifs et à devenir et à croire en sa religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les autres, justement, croient en leur religion. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas appeler les autres. Même s'ils voient, par exemple, des gens en train de contredire clairement les commandements d'Allah, comme par exemple, ils voient quelqu'un en train d'adorer une idole, parmi les juifs ou les chrétiens, ou bien parmi les, par exemple, les hindous, les bouddhistes ou les autres peuples, ils ne vont pas leur dire, non, il ne faut pas faire ça. Cessez d'adorer les idoles, adorer Allah seul. Ils ne vont pas dire ça. Parce qu'ils sont avares de la vérité. Ils veulent seulement que ce soit eux qui soient, et aller sur le message que Allah leur a donné. Même si on sait que leur message qu'ils ont aujourd'hui, il est falsifié. Mais c'est juste pour dire, ils ont cette avarice et cette jalousie-là en eux. Ils ne veulent pas que personne puisse avoir cette grâce-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit que, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans plusieurs versets en disant que ce sont des gens qui cachent la science. Que ce sont des gens qui cachent la science, qui camoufle la science. Et il mentionne comme exemple plusieurs versets, comme le verset 187 dans Sourate Al-Baqarah. Le verset 187 dans Sourate Al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah dit ce qui signifie, le verset au complet. Oh, pardon, j'ai dit dans Sourate Al-Baqarah, mais c'est Sourate Al-Imran. Donc c'est pas Al-Baqarah, c'est Sourate Al-Imran. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 187 dans Sourate Al-Imran, ce qui signifie, Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas. Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas. Donc Allah avait pris cet engagement-là avec eux, qu'ils ne devaient pas cacher quoi que ce soit de la religion. Ils doivent l'exposer, hein, et le mentionner à tout le monde. لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ. Vous allez le clarifier aux hommes, et que vous n'allez pas le cacher, que vous n'allez pas le cacher. Ça, c'est l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le verset 159 à 160 dans Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala justement mentionne le fait qu'ils ont été maudits pour avoir justement caché la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, hein, ce que nous avons révélé en fait de preuve et de guide, après l'exposé que nous en avons fait aux gens, après l'avoir expliqué, clarifié clairement aux gens dans le livre, alors voilà ceux que Allah maudit. Et les maudisseurs les maudissent, et que les maudisseurs maudissent, yani tous les êtres humains et toutes les créatures, yani maudissent ces gens-là aussi, ceux qui cachent la vérité qui vient d'Allah après que cette vérité ait été expliquée, sauf ceux qui se sont repentis. Bien entendu, s'il y en a parmi eux qui se sont repentis après avoir caché la vérité, eh bien yani ils seront pardonnés parce qu'ils ont fait tauba. Et bien entendu, encore là, cette tauba, elle a des conditions. Et parmi les conditions, c'est qu'ils doivent yani, corriger et déclarer l'erreur qu'ils ont fait et l'égarement qu'ils avaient par rapport à ça. Ensuite, il mentionne un autre exemple de ça, c'est le verset 174 dans Sourate Al-Baqarah aussi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire ce qu'il a révélé du livre, et le vendent à vil prix, hein, pour un petit prix, ils le vendent aux gens. Ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. » Un douloureux châtiment. Donc ça, c'était le verset 174, puis aussi le verset 76 dans Sourate Al-Baqarah aussi. Allah subhanahu wa ta'ala parle de leurs caractéristiques ici aussi, du fait de cacher la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici ce qui signifie « Et quand ils rencontrent des croyants, c'est-à-dire les Juifs, lorsqu'ils rencontrent des croyants, des musulmans, ils disent « Nous croyons ». Ils disent « Nous aussi on croit hein? ». Et une fois seuls entre eux, c'est-à-dire une fois quand ils ont été seuls entre eux, qu'il n'y a plus de musulmans avec eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce que Allah vous a révélé pour leur fournir ?» Ainsi, pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur, êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc, c'est-à-dire, il y en a parmi eux qui blâment les autres. Il y en a parmi les Juifs qui blâment d'autres Juifs qui ont, lorsqu'ils sont parmi les musulmans, ils donnent parfois des informations sur, qu'est-ce qu'ils ont reçu de la vérité auparavant. Et donc, ils se font critiquer et blâmer par les autres en disant « Est-ce que vous allez leur mentionner les choses qu'on a reçues comme ordre pour qu'ils l'utilisent par la suite contre nous comme argument pour dire qu'est-ce qu'on fait pas correct ?» Donc ça c'est grave. Ça c'est grave. Et cette caractéristique-là, elle existe chez certains musulmans. Et parfois tu vois même certains musulmans agissent. Certains musulmans qui sont nés dans l'islam agissent de cette façon-là avec des convertis. C'est-à-dire quand, par exemple, des musulmans nés dans des pays musulmans, dans des familles musulmanes, rencontrent des convertis à l'islam, ils ne veulent pas leur dire ou les informer des choses qui font partie de l'islam, soit des choses qui sont interdites, ou ordonner pour pas justement que ce soit pris contre eux par la suite. Tu sais, c'est comme par exemple, ils vont dire, on va pas dire aux convertis que telle chose est haram ou que telle chose est obligatoire dans l'islam. Pourquoi? Parce que si on leur dit ça, eux, ils vont utiliser ça contre nous par la suite et ils vont nous critiquer ou ils vont nous blâmer ou bien ils vont se mettre à le faire puis nous, on le pratique pas. Donc cette caractéristique-là, c'est grave, de cacher la vérité, de cacher la vérité, ça c'est très très grave. Et le Cheikh, il dit justement, après avoir mentionné tous ces versets, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui ont encouru la colère d'Allah en disant à leur sujet qu'ils ont caché la science. Parfois, ils l'ont caché, soit par envie, bukhlan, c'est-à-dire par avarice. Donc, parfois, ils cachent cette science par avarice. Parfois, taratan i'tiyadan an izharihi bid-dunya. Donc, parfois, ils refusent de le laisser paraître, de montrer la vérité aux gens parce qu'ils veulent quelque chose de la dunya. À cause de leur désir de quelque chose de la dunya, et parfois ils le cachent par crainte que ce soit utilisé comme argument contre eux s'ils le montraient. Hein? Il dit que certains parmi les groupes de ceux qui prétendent appartenir à la science ou qui se déclarent appartenir à la science peuvent avoir certaines de ces caractéristiques-là, et ça se peut qu'ils aient été éprouvés par certaines de ces choses-là, parce que parfois ils cachent de la science par avarice ou parce qu'ils ne veulent pas que d'autres obtiennent ce mérite qu'eux ont pu obtenir. Donc, parce qu'ils ne veulent pas que d'autres l'obtiennent, eh bien, ils font preuve de jalousie, hein, de cette science-là. Et on a entendu parler des exemples de ça. Il y en a parmi des groupes, certains qui ont, par exemple, qui se sont spécialisés dans l'étude de certaines sciences de l'islam, puis ils refusent de l'enseigner à certaines catégories des personnes. Ils veulent juste l'enseigner à ceux de leur famille ou à ceux des gens qui sont de leur tribu ou des gens de leur proche, pour que cette science-là reste juste chez eux et pour que tout le monde ait besoin d'eux, hein, et que personne puisse avoir accès à cette science-là excepté par eux. Donc ça, c'est un exemple clair de ce genre de comportement. Et ça, c'est vraiment pas correct. Ok, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, et on va terminer avec ça, inshallah, parce que là on a vu la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la suivante. On va la lire, c'est la première caractéristique, c'était la jalousie, al-hasad. Et la deuxième, c'est yani al-bukhl, yani l'avarice. Donc il va mentionner plusieurs exemples, mais là on était rendu là. Il dit wa taratan i'tiyadan anhu bi riyasatin aw malin wa yakhafu min intiqasi riyasatihi aw naqs malihi. Il dit et parfois il cache la science parce qu'il veut en échange quelque chose. Soit il veut une position de pouvoir, ou bien il veut de l'argent. Ou parce qu'il craint que, en faisant connaître à d'autres personnes la science qu'il possède, qu'il soit diminué dans son pouvoir, dans le pouvoir politique, hein, ou dans le pouvoir qu'il a sur les autres, ou qu'il soit diminué dans son argent, dans sa richesse. Donc, à cause de ça, il cache la science. Donc il fait preuve d'avarice, et c'est ça la deuxième caractéristique qui est mentionnée ici, dont on a mentionné les versets et les preuves. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي أن الله يبغض الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من وجوه الخير ليس هذا فحسب بل يأمرون الناس بالبخل أي داء أشد من البخل والبخل على قسمين بخل بالمال وبخل بالعلم والبخل بالعلم أشد من البخل بالمال لأن العلم أنزله الله حجة على عباده فلا يجوز للعالم أن يبخل بعلمه بل عليه أن يبذله وأن يجتهد في نشره لينتفع الناس به فلا يجوز لأهل العلم أن يكتموه بل لا بد من تبليغه فليس العالم المستودع فليس العالم مستودعا للعلم فقط وأشد من البخل بالعلم كتمانه بحيث أنه إذا سئل عن مسألة أفتى بغير الحق إما لهوى في نفسه وإما طلبا لطمع دنيوي فيكون قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 36 dans sourate An-Nisa que Allah n'aime pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est quoi qu'on avait dit dans la traduction tout à l'heure, le verset dans sourate An-Nisa, les présomptueux, on avait dit, c'est juste pour être, pour vérifier. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le présomptueux, l'arrogant, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la personne qui est présomptueuse et qui est arrogante, qui fait preuve d'avarice et qui ordonne aux autres l'avarice. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, yani, ceux qui sont avares pour leur bien et qui refusent, yani, qui refusent de donner leur argent dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de donner, yani, de dépenser nos biens. Dans, parmi les différentes formes de biens qui existent, lorsque Allah nous ordonne de dépenser de notre argent dans qu'est-ce qui est bien, il n'aime pas qu'on fasse preuve d'avarice dans ces choses-là. Et c'est pas ça seulement, mais qui ordonne aux autres l'avarice. Et c'est grave. Et qui, ceux qui sont avares et qui ordonnent l'avarice aux autres. Et ça, c'est grave. Et il dit, et quelle maladie est plus grave que l'avarice? Et il dit que l'avarice, elle est de deux catégories. L'avarice vis-à-vis de l'argent et l'avarice vis-à-vis de la science. Et il dit que l'avarice vis-à-vis de la science, elle est plus sévère et plus grave que l'avarice de l'argent, vis-à-vis de l'argent. Parce que la science, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée comme une preuve, yani, sur ses serviteurs. Il n'est donc pas permis à quelqu'un qui détient de la science, à un savant, d'être avare vis-à-vis de sa, yani, avec sa science, mais il doit plutôt la dépenser et la transmettre et la faire profiter aux autres. Et il doit faire des efforts pour la diffuser et la propager pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc, il n'est pas permis aux hommes de science de cacher la science. Mais il doit plutôt la propager et la transmettre. C'est, donc, le savant, c'est pas yani un homme qui emmagasine seulement de la science et qui fait seulement qu'entreposer de la science en lui-même. Non. Il dit que, et même, qu'est-ce qui est plus grave encore que l'avarice yani, par rapport à la science, c'est le fait de cacher la science. Yani, dans le sens que si on demande la question à quelqu'un à propos de la science, il fait une fatwa sans science. C'est-à-dire, plutôt, il fait une fatwa qui est contradictoire à la vérité. On lui pose une question dans la religion, on lui demande une fatwa. Lui, il fait une fatwa qui est contraire à la vérité, parce qu'il veut cacher la vérité. Et ça, c'est grave. Et il dit, soit qu'il le cache parce qu'il désire quelque chose de la dunya, et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a vendu les signes d'Allah à vil prix. Ou bien à cause d'une passion qu'il a en lui-même. À cause d'une passion qu'il a en lui-même. Donc, ça, c'est grave. Et il dit, وَرُبَّمَا هَذَا الَّذِي يَكْتُمُ الْعِلْمِ إِنَّمَا يَكْتُمُهُ وَيُفْتِي بِخِلَافِهِ خَوْفًا عَلَى مَنْصِبٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ وَظِيفَةٍ مع العلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه بقيامه بالحق قد يكون سببا في هداية من أراد أن يتلقمه أن يتمر عفوا وأنه بقيامه بالحق قد يكون سببا في هداية من أراد أن يتملقه بفتواه قد يكون سببا في هداية من أراد أن يتملقه بفتواه وكتم الحق من أجل إرضائه وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل كفار قريش على عدم اتباعه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا مناصبهم ومكانتهم وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك مما تخذلهم به شياطين الإنس والجن. Donc le cheikh il dit et c'est possible que il cache la science hein, et il fasse des fatwas, yani il le cache uniquement, il fait des fatwas contraires à la vérité par crainte de perdre son statut ou sa position ou son poste ou son emploi, tout en sachant que celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah va lui échanger par quelque chose de meilleur. Et que, en se tenant sur la vérité, eh bien, il peut faire en sorte que la personne qui voulait chercher la vérité puisse être guidée par cette fatwa qu'il a donnée. Mais lui, il a caché la vérité dans le but de faire plaisir. Min ajli irda'ihi. Katam al-haq min ajli irda'ihi. Donc il voulait attirer quelqu'un, avoir l'intérêt de quelqu'un, donc il a caché la science. وقد يكون سببا في هداية من أراد أن يتملقه بفتواه وكتم الحق من أجل وكتم الحق من أجل إرضائه وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل كفار قريش على عدم اتباعه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا مناصبهم ومكانتهم. الشيخ explique, il dit, c'est ça qui a poussé beaucoup de gens à cacher la vérité, comme par exemple les juifs qui n'ont pas suivi le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? C'est du fait que ils ont peur de perdre leur position, de perdre leur statut, de perdre les choses qu'ils ont dans la dunya. La même chose pour les koufars de Quraysh. Ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils savent qu'il est le messager d'Allah. Mais ils ont cru que s'ils allaient le suivre, ils allaient perdre leur statut, leur position, le degré qu'ils ont, et qu'ils allaient plus avoir les biens ou la richesse qu'ils ont dans cette vie. Et donc ils ont été trompés par les diables hommes et les diables parmi les djinns à ce sujet-là. Après le cheikh il dit wa fi qawlihi ta'ala wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. يعني أن اليهود قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حقا وكتابهم ومن نحن سنصلي بعد ممكن 5 دقائق فقط أنتهي من هذا ونصلي إن شاء الله. donc le cheikh il dit يعني أن اليهود قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حقا من كتابهم بصفاته الواضحة ومع ذلك فإنهم إذا اجتمعوا مع بعضهم قالوا اكتموا ما تعرفونه من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ حجة عليكم عند ربكم وقد شابههم في هذه في هذه يبينونه وقد شابههم في هذه يبينونه. Donc le cheikh il dit ici que dans le verset 76 dans sourate al-Baqara, lorsqu'il dit et lorsqu'ils sont entre eux, lorsqu'ils se retrouvent seuls entre eux, ils disent les uns aux autres, est-ce que vous allez leur donner des informations de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit ou vous a révélé pour qu'ils l'utilisent comme une preuve contre vous auprès d'Allah, auprès de votre Seigneur? C'est-à-dire que les Juifs ont su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était réellement un prophète dans leurs livres. Ils l'ont su avec les descriptions claires qui ont été mentionnées à ce sujet-là dans leurs livres. Mais malgré ça, lorsqu'ils se réunissaient entre eux, ils disaient « Cachez ce que vous savez de qu'est-ce qui a été dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la révélation que vous avez reçue, pour pas que ce soit pris comme une preuve contre vous auprès de votre Seigneur. » Et donc, il dit « وَقَدْ شَابَهَهُمْ فِي هَذِهِ وَيُبَيِّنُونَهُ » Donc c'est ça. Il y en a qui ont ressemblé à ces gens-là, dans cette caractéristique-là. Et il dit, la troisième caractéristique, « التشبه باليهود في كتمان العلم وقد شابههم في هذه الصفة بعض من أهل العلم حيث أنهم يكتمون العلم ولا يبينونه خوفا من أن يحتج عليه بعد ذلك ويقال له لماذا لا تعمل بعلمك؟ لماذا تخالف ما تعلم؟ إما لأجل البخل به وازدراء الناس وأنهم ليسوا في مستوى يستحقون التلقي منه أو يكتمه من باب الخوف على دنياه أو لأن لا يحتج به عليه أو يحتج به عليه لأنه يقول ما لا يفعل. Donc la troisième caractéristique des juifs c'est de cacher la science, et il dit il y en a parmi les hommes de science de cette umma qui leur ont ressemblé, certains qui leur ont ressemblé en cachant la science et qui ne l'expliquent pas aux gens par crainte que cette science-là soit utilisée comme argument contre eux, pour que les gens ne disent pas pourquoi tu n'appliques pas ta science et ton savoir, pourquoi tu contredis ce que tu sais, et ou bien par avarice, ou pour mépriser les gens, ou pour dire que les gens sont pas dans le degré duquel ils méritent de prendre de lui, ou bien qu'il cache la science parce qu'il a peur de perdre sa dunya, il a peur de perdre les biens de cette vie d'ici-bas. Ou la yuhtaj bihi alayhi, ou bien pour pas qu'on l'utilise comme argument contre lui, pour qu'on lui dise pourquoi tu n'appliques pas ta science, ou bien tu n'agis pas selon ce que tu sais. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Oui, en fait, c'est en l'ordre dans lequel le cheikh les a mentionnés. Parce que dans les versets qu'on a cités, il y avait tous ces exemples-là. Dans les versets qu'on a cités, il y avait l'exemple de l'avarice, il y avait l'exemple de cacher la science. Ok? Puis la première exemple, la jalousie, la deuxième exemple, l'avarice, et la troisième exemple, cacher la science. Soit par avarice ou pour autre raison. Pour la dunya. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça au prochain cours, Inch'Allah, lundi. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.